Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors, le littoral Languedoc-Roussillon fait l'objet d'inquiétudes quant à la menace de la montée des eaux. Région et ville se mobilisent aujourd'hui pour s'adapter, tant qu'il est encore temps. Et Seaboots, une société montpelliéraine, appuyée par de nombreux partenaires, s'est lancée d'une part dans la restauration écologique des zones marines littorales en perte de biodiversité et d'autre part sur l'adaptation au réchauffement climatique. Deux phénomènes qui trouvent finalement une même réponse dans l'éco-conception d'infrastructures immergées. C'est ce à quoi s'emploie Seaboots en faisant travailler, main dans la main, des biologistes marins et des ingénieurs. Seaboots a ainsi mis au point plusieurs types de récifs artificiels qui sont copiés sur le littoral, sur les milieux naturels et qui s'intègrent parfaitement à tous les aménagements du littoral. En 2018, l'entreprise obtenait le Grand Prix Éco-entreprise de l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, et du PECS, le Réseau National des Solutions pour la Transition écologique. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Julien Dahl. Julien, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chef du projet Ingénierie écologie chez Seaboots. Vous êtes responsable de l'adaptation au changement climatique et des solutions qui sont fondées sur la nature. Mais finalement, cette connaissance des fonds marins, vous l'avez déjà exercée à l'occasion d'une précédente passion, puisque vous étiez photographe sous-marin.
Oui, tout à fait. Je suis photographe sous-marin par passion, plongeur. Et c'est vrai qu'au fil des 20 années que j'ai passées à plonger, finalement, on plonge souvent au même endroit et on s'aperçoit que la biodiversité, les écosystèmes évoluent, pas toujours de la manière qu'on souhaiterait. On parle beaucoup aujourd'hui d'effondrement de la biodiversité. En fait,
Mais est-ce que vous l'avez vu ?
On le voit, oui, on le voit quand on plonge aussi bien en France métropolitaine, dans la Méditerranée, ou à l'étranger, en Polynésie, en Égypte. On voit que les écosystèmes évoluent, on voit qu'il y a des récifs coralliens qui vont moins bien qu'avant, qu'on a moins de poissons dans certaines zones que ce qu'on avait l'habitude de voir quelques années auparavant. Donc ça, c'est des choses qui, à l'échelle d'une vie humaine, s'observent.
Et alors, sur le littoral Languedoc-Roussillon, puisque ça nous concerne particulièrement?
Sur le littoral Languedoc-Roussillon, on a beaucoup de côtes sableuses. Après, on a quelques côtes rocheuses qui sont davantage plongées. On pense par exemple à la région d'Agde ou au banc des Arresquiers. Et c'est des zones sur lesquelles on a aussi des impacts visibles d'évolution de la biodiversité, en tout cas.
Des poissons qui disparaissent?
Des poissons qui disparaissent, je ne sais pas s'ils disparaissent, mais en tout cas, aujourd'hui, on parle d'effondrement de la biodiversité. On n'a pas vraiment d'effondrement de la biodiversité parce qu'il n'y a pas vraiment d'effondrement de la diversité. En revanche, on a une grosse perte d'abondance. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore beaucoup d'espèces qui disparaissent, mais dans les espèces, il y a beaucoup d'individus qui, eux, disparaissent. Et ça, c'est un vrai sujet parce que ça vient impacter. C'est une crise génétique. On a de moins en moins d'individus, donc de moins en moins de renouvellement, de brassage génétique. Et par contre, ça donne aussi de l'espoir parce que les espèces, elles sont encore là et charge à nous d'agir tant qu'elles y sont pour les préserver et accompagner leur résilience.
Donc, vous allez avoir forcément une nécessité à agir vite. Alors aujourd'hui, il y a déjà eu un peu une prise de conscience, ce qui doit quand même vous aider d'une certaine manière.
Oui, tout à fait.
Voilà. Mais maintenant, il faut faire vite, parce que je suppose que c'est un processus qui va en s'accélérant.
Alors, c'est un processus qui va en s'accélérant, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les experts du GIEC, entre autres, qui ont parfaitement pointé du doigt ce genre de sujet. Et c'est, je pense, qu'on a, nous, une petite partie de la réponse au travers de la restauration écologique et de l'éco-conception d'ouvrages, mais qu'il y a aussi des mesures de gestion qui sont ou qui doivent être adoptées de manière à avoir une gestion plus pérenne de ces milieux qu'on affectionne et qui nous sont tellement précieux pour la pérennité de notre propre espèce. Et aussi, après, quelque chose qui doit percoler dans la conscience collective en termes de l'attention qu'on porte à cet environnement qui nous nourrit.
Alors, vous parlez parfois de réversibilité. Ça veut dire quoi ?
La réversibilité, ça signifie qu'on n'a pas atteint un point de bascule au-delà duquel il n'y a plus d'action possible.
Donc, on a encore de l'espoir.
On a encore de l'espoir pour la plupart des espèces. Après, c'est évident que quand on prend des espèces sur lesquelles il y a quelques individus, on a beau dire que l'espèce n'est pas éteinte, elle est quand même mal engagée.
Alors, de photographe de ces milieux marins, vous êtes devenu ingénieur. Donc, vous avez aujourd'hui des mots qui ne sont plus forcément ceux du grand public. Est-ce que, par exemple, vous dites la perte de cette biodiversité nous conduit aujourd'hui à des pertes d'apports écosystémiques? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que toute la biodiversité, le monde qui nous entoure, à l'échelle macroscopique, et ce qu'on a à l'intérieur de nous, tout ce microbiote, ça contribue à notre santé, ça nous rend des services. Ça nous fournit de la nourriture, ça nous fournit une protection contre les événements climatiques extrêmes, ça capte et ça stocke les gaz à effet de serre. Tous ces services, force est de constater que s'il n'y a plus de nature, il n'y a plus de services.
Alors ça, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre santé. Mais prenons un petit peu les pêcheurs aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent. Dans la région, je trouve qu'on parle beaucoup, par exemple, des viticulteurs, mais on parle peu des pêcheurs. Or, les pêcheurs sont menacés aussi.
Les pêcheurs sont menacés parce que leur activité repose sur un service écosystémique qui est un service de production, la capture de la ressource halieutique. Et c'est sûr que si les stocks halieutiques périclitent, le métier de la pêche va avec.
Alors, pour agir, pour répondre à cela, vous avez choisi de fonctionner au cœur de votre société, de Cibouts. Vous avez choisi d'agir grâce au biomimétisme. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en deux mots ce qu'est le biomimétisme?
Oui. Alors, il y a autant de définitions que d'interlocuteurs, mais le biomimétisme, si on essaie de le définir simplement, c'est l'action qui consiste à s'inspirer de la nature, que ce soit une géométrie, un processus, et à essayer de le reproduire pour, au travers de cette reproduction, obtenir un résultat similaire.
Alors, des biomimétismes, on en parle depuis peu, finalement.
Oui. C'est assez récent. Il y a un certain nombre de personnes qui ont théorisé cette doctrine du biomimétisme. Nous, on le voit avant tout comme une forme d'outil et de sécurité, parce que c'est en fait l'approche qui nous permet de proposer des solutions d'éco-conception qui soient les plus proches et cohérentes possibles avec les besoins des espèces qu'on cible. Quand on intervient en Méditerranée pour proposer une solution de nurserie pour des bébés poissons, on s'inspire de l'herbier. Et on propose une solution qui ressemble à l'herbier, parce qu'en Méditerranée, la nurserie principale de ces espèces, c'est l'herbier de Posidonie.
Alors, essayons de prendre un exemple qui n'est peut-être pas issu du milieu marin pour expliquer le biomimétisme plus simplement.
Le biomimétisme, c'est par exemple, imaginer qu'on puisse faire des habitats qui ont une régulation de température autonome en s'inspirant des termitières. C'est la manière dont a été designé le TGV, le Shinkansen, à partir du bec du Martin Pêcheur. Donc en fait, c'est ces exemples-là, c'est une structure, une organisation qui nous permet de nous inspirer pour répondre à un problème.
Ou une plante qui vous s'accroche à vos chaussettes et qui finalement donne après du velcro ou des choses de ce genre. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Alors, on a maintenant le biomimétisme à sa place à la Cité des Sciences à Paris, une fois par an, et on découvre des choses absolument impressionnantes.
Ah oui, tout à fait. Dans tous les secteurs, il y a des applications qui sont incroyables. On a Jérémy Gobet qui fait des coraux inspirés avec de la dentelle de Limoges. On a un chercheur dont j'ai mangé le nom qui utilise l'hémoglobine issu des vers arénicoles pour la transplantation et faire un substitut de sang. Donc on a vraiment dans tous les domaines, de la médecine à l'architecture, des applications du biomimétisme qui sont formidables. Ouais.
Alors j'insiste un peu là-dessus parce que finalement c'est quelque chose dont on n'a encore jamais parlé dans le cadre de « Nous n'avons qu'une terre ». Et finalement ça représente beaucoup de ce qui est aujourd'hui une nouvelle manière d'appréhender les problèmes écologiques. C'est-à-dire au lieu de trouver des solutions finalement qui étaient purement technologiques, c'est-à-dire d'inventer que l'homme réinvente des solutions, il est de plus en plus en train de s'inspirer de la nature.
Ouais, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que l'ingénierie traditionnelle, la manière dont elle raisonne, c'est « j'ai un problème et à partir des outils que j'ai à ma disposition, j'essaie de mettre en place une solution pour le résoudre ». Quand on pense biomimétisme, c'est un peu différent. On se dit « j'ai un problème, la nature amène une solution à ce problème et mes outils doivent m'amener à reproduire le mieux possible la manière avec laquelle la nature y a répondu ».
Alors, on va prendre des exemples. Donc, Sibutz, vous avez choisi justement de vous inspirer de la nature et vous avez classé un peu ces types de biomimétisme pour initier un peu vos différentes productions. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner deux ou trois exemples?
Par exemple, j'en ai donné un tout à l'heure. Quand on cherche à créer une nurserie, on s'est inspiré de la géométrie des herbiers pour produire un habitat similaire. Quand on cherche aujourd'hui à protéger un littoral contre l'érosion et à faire en sorte que les plages restent à leur place et que le sable ne s'en aille pas dans la mer, tout simplement, on s'inspire par exemple des écosystèmes de mangroves qui ont nativement cette performance de dissipation de l'énergie de la houle et qui permettent de protéger les zones côtières. Ça s'est très bien vu dans les retours d'expérience du tsunami où on avait des zones qui avaient été extrêmement bien préservées grâce à la présence de mangroves. Quand on pense recrutement corallien, on s'attache à la microstructure et à la manière dont cette microstructure, sa porosité, sa rugosité vont permettre en fait d'attirer et de favoriser la fixation et la préservation des larves coralliennes. Donc on a différentes échelles et différentes applications du biomimétisme, qu'elles soient géométriques, fonctionnelles, purement écologiques en termes de substrat. Donc après, c'est vraiment la manière dont on formule la problématique qui nous permet d'essayer de regarder comment la nature y répond.
Donc, en fait, vous restez en permanence à observer la nature.
On l'observe beaucoup, oui. Mais après, on fait aussi ce métier parce qu'on aime observer la nature.
Alors, comment vous faites alors pour quel est un peu le cheminement?
Le cheminement, c'est déjà de poser la problématique et d'essayer de définir l'objectif.
Donc, la problématique, c'est par exemple la montée de l'eau ou l'érosion.
La problématique, ça peut être l'érosion, par exemple, pour un problème qu'on a traité récemment. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans le catalogue de la nature, si on peut appeler ainsi, les écosystèmes qui permettent, qui ont déjà nativement cette propriété de dissipation de la houle, de dissipation des courants,
de dissipation des courants de marée.
Les mangroves, c'est un écosystème qui est extrêmement performant dans ce domaine-là et qui en plus supporte énormément de fonctionnalités écologiques, d'habitat, de nurserie qui permettent d'accueillir la vie.
Et c'est ce qui lui permet de se différencier justement de ce qu'on avait choisi auparavant, qui étaient les épis ou les digues.
Tout à fait, entre autres. Notamment pour ça, également parce que c'est poreux, donc ça laisse circuler les individus, ça laisse circuler le sable, ça permet de renouveler les masses d'eau, donc ça a un certain nombre d'avantages. Et du coup, on a essayé de comprendre avec des experts, des tests en laboratoire, quelles étaient les propriétés de la mangrove qui faisaient qu'elle avait cet effet-là. Est-ce que c'est la taille des racines, leur rugosité, leur disposition, leur inclinaison? Donc on a testé plein de paramètres. On en a identifié plusieurs qui étaient adaptés et qui permettaient de répondre à ça. Et ensuite, on a, dans une phase de design et de conception, on a, comment dire, mélangé ces paramètres et on a abouti à différents concepts qu'on a testés ensuite en modélisation pour en choisir trois, qui sont aujourd'hui les trois objets que l'on utilise pour la protection contre l'érosion des côtes.
Alors là, je viens de vous faire parler beaucoup d'une manière un peu abstraite de votre métier, mais vous avez été réellement reconnu par la fabrication, la mise à l'eau de gros récifs artificiels. Vous vous êtes fait connaître de cette façon. Et on va écouter d'ailleurs un témoignage d'un de vos collègues qui s'appelait...
C'est Mathieu Lapinski.
Voilà, qui donc un témoignage qui, au moment de l'opération Rexor, qui a été menée au large du parc national des Calanques, eh bien, le site était particulièrement dégradé et il se félicite de l'opération.
Le projet Rexcor, c'est un projet expérimental qui vise à étudier des nouvelles solutions pour restaurer des zones dégradées ici dans le parc national des Calanques. Dans ce projet, il va y avoir 36 récifs qui vont être immergés, qui chacun ont leur objectif. Certains visent les petits poissons, certains les gros poissons, certains les algues. Et donc, ils font en gros entre 2 et 13 tonnes. Et ils sont constitués de différents matériaux, du béton, des éléments coquillés, des fibres naturelles. Et on va étudier pendant 3 ans au moins le retour des fonctions écologiques dans cette zone dégradée du parc national. C'est vraiment une fierté de me lever le matin et de tenter des choses, d'essayer d'améliorer les connaissances, d'essayer d'innover et de proposer en tout cas des solutions sur des zones qu'on pensait complètement abandonnées et complètement détruites.
Alors, on vient d'entendre donc un témoignage qui résume un peu tout ce que vous venez de nous dire. Et puis, il y a eu l'expérience du Cap d'Agde, alors qui a été fortement médiatisée à télé, radio, etc. Ce projet d'Agde a été mené avec le travail en collaboration avec le parc marin d'Agde. Voilà. Et il s'agissait donc... mais alors, c'est un énorme coup. C'était une expérience exceptionnelle, cette opération d'Agde.
Oui, c'est un projet, c'est un gros projet. C'est un projet assez précurseur qui s'appelle Récif Lab et qui était effectivement piloté par la ville et la partie environnement avec les équipes de Renault du Puy-de-la-Grand-Rive. Il faut savoir qu'à Agde, ils sont quand même assez précurseurs et assez innovants dans le domaine de l'environnement marin et de la préservation marine. Ce projet, il avait pour objectif de démontrer la pertinence d'un cortège d'actions dans le domaine des écosystèmes marins. Donc on avait effectivement, ce qui était le plus médiatisé, c'était un gros récif de déport de pression. La logique, elle est simple. C'est-à-dire que Agde, c'est un...
Parce que vous appelez un gros récif, c'était vraiment un gros récif. Hein. Il mesurait 1,60 m de haut, il pesait des tonnes.
Il fait 8 mètres de haut, il pèse 100 tonnes, 110 tonnes de mémoire, et il fait à peu près 6 mètres, 8 mètres d'en base aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... C'est le plus gros récif imprimé en 3D au monde. Donc c'est quelque chose de colossal. Et il a pour objectif d'accueillir de la plongée en fait. Le constat c'est de dire, le littoral d'Agde est très plongé, il y a une pression de plongée, donc on crée un site de plongée artificiel qui a vocation à se coloniser pour soulager les sites naturels à proximité.
Voilà, alors là on est réellement dans un projet qui est presque à la limite, j'ai envie de dire touristique, c'est malvenu, mais... économique et touristique et protection en même temps de l'environnement. Donc, Agde sait qu'il faudra penser autrement demain et voit déjà des choses en grand. Alors, ailleurs, on n'a pas forcément les moyens qui ont été mis en place sur Agde. Et vous avez une action qui est aujourd'hui très reconnue sur l'atténuation de la houle traditionnelle. C'est-à-dire ce que vous appelez des ouvrages gris, opaques. Essayez de nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit alors.
Aujourd'hui, quand on pense à protection du littoral, on pense beaucoup aux ouvrages qu'on a mis en place ces 30 dernières années, des digues, des épis, des brise-lames qui sont constitués de blocs de roches empilées. Ces ouvrages, ils ont un intérêt, c'est qu'on connaît leur performance et qu'on sait qu'ils fonctionnent, on sait comment ils fonctionnent. Ils ont des inconvénients, qui sont des ouvrages qui sont opaques, qui sont immuables, qui nécessitent un entretien, qui sont coûteux et qui n'accueillent pas la vie. En tout cas, qui ne sont pas pensés pour accueillir la vie dans toute sa diversité.
Ils sont faits uniquement donc pour briser la lame.
Tout à fait. Ils sont faits pour combattre la houle et les courants. Nous, ce qu'on propose, c'est un peu différent puisque c'est inspiré de la mangrove, comme on le disait un peu plus tôt. Et donc, c'est des ouvrages qui sont transparents. Il dissipe l'énergie des vagues et des courants par frottement, si on doit imager. Donc en fait, le chemin à travers l'ouvrage est tellement tortueux que peu à peu, la vague perd de son énergie et elle ressort de l'ouvrage amoindrie par rapport à la vague incidente.
Et donc elle peut moins emmener le sable également.
Elle emmène moins le sable. Comme elle a moins d'énergie, elle emmène moins de sable, elle dépose.
Et puis le chemin est plus compliqué.
Le chemin est plus compliqué. Et en fait, ces ouvrages, ils ont un certain nombre de vertus. Ils permettent la circulation de l'eau, la circulation des espèces, et donc la migration des espèces et entre la côte et le large, ou parallèlement à la côte. Ils permettent d'accueillir la vie, et c'est des ouvrages qui sont modulaires, donc si on a de la casse, ça ne met pas en péril l'ouvrage. C'est des ouvrages qui peuvent être étendus a posteriori, ou surélevés s'ils s'enfoncent. Donc voilà, on a plusieurs vertus. Ils sont différents des ouvrages traditionnels, ils n'ont pas vocation à s'y substituer partout, mais ils constituent un bon complément en tout cas.
Alors, ils sont différents des ouvrages habituels. Effectivement, le récif artificiel, c'est pas né d'hier. Enfin, c'est une notion que les Romains avaient déjà mis en place. Et puis, on a fait un peu n'importe quoi. On a été jusqu'à immerger des voitures, des voitures qui étaient à la casse en guise de récif artificiel. Donc, en fait, la nouveauté de votre approche, c'est que, en même temps, ces récifs artificiels vont devoir maintenir la vie.
Oui, c'est essentiellement pour ça qu'on le fait, c'est qu'on construit soit pour la nature, soit avec la nature. Globalement, c'est les deux approches qu'on a. Et pour ça, ben, c'est sûr qu'on ne doit pas faire n'importe quoi et qu'on fait attention à ce qu'on immerge pour que ça joue le rôle écologique qu'on lui donne.
Alors justement, ça nous amène à un des points qui est très important pour vous, c'est le choix des matériaux. Vous mettez une grande importance à ce choix des matériaux.
Les matériaux, en fait, c'est ce qui constitue la base de toute construction. C'est le constituant, le composant principal. Et en ça, on est soumis à deux contraintes. Une contrainte écologique, il faut que ce matériau permette d'accueillir au mieux la vie et soit compatible avec la fixation des organismes. Et un rôle structurel, il faut que ce matériau soit durable dans le temps et qui nous permettent d'imprimer à une forme le design que l'on souhaite qu'elle arbore pour accueillir toutes les fonctionnalités écologiques. Donc je vous donne deux exemples. Quand on parle par exemple d'installation de la vie, on peut penser par exemple à la colonisation corallienne. La colonisation corallienne, nous on a mis en place un matériau avec une micro-complexité, une micro-porosité. On est capable de choisir la dimension des pores à l'échelle micrométrique. Et ça permet d'avoir un matériau qui se colonise extrêmement rapidement parce que les larves viennent se loger à l'intérieur des pores et sont à l'abri pour grossir.
Alors, parlons-en plus longuement, puisque moi j'ai vu un peu une maquette de ce que vous aviez fait lors du congrès mondial de l'UICN à Marseille. Mmh. Et oui. En fait, le reproche qui est fait souvent aux gens qui restituent des récifs coralliens, c'est qu'ils les replantent comme ça à l'horizon et finalement directement sous le réchauffement du soleil et finalement sans tenir compte de ce qui a fait disparaître le corail, c'est-à-dire le trop de chaleur. Or, vous avez fait un choix qui est de reproduire des niveaux, alors vous avez fait appel à des dentelières locales, etc. Enfin, un travail incroyable avec la population locale. Mais en même temps, expliquez-nous donc comment vous voyez demain le retour du corail.
Aujourd'hui, au-delà de la transplantation corallienne, elle a, on va dire, un gros problème, c'est que c'est difficile à passer à l'échelle. Ça nécessite des plongeurs. Les plongeurs, c'est cher. Et donc, aujourd'hui, replanter 50 hectares de corail, c'est excessivement compliqué. Donc, demain, nous, ce qu'on essaie de développer, c'est des méthodes de restauration qui se fondent sur des supports de restauration écologique récifaux qui permettent de passer à l'échelle et, en fait, de démultiplier l'effort qui est mis dans la replantation, dans la restauration, pardon, et pas la replantation, lapsus, pour avoir une action à grande échelle.
Donc, vous êtes en lien. Mais est-ce qu'on a différents... Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que seul le corail branchu voit le jour. Hein, et finalement, on n'arrive pas à reproduire toute la diversité du corail. Est-ce que vous avez...
La transplantation n'est pas applicable à toutes les espèces coralliennes. Et donc, en fait, on n'en transplante qu'une petite partie. Et dans cette petite partie, il y en a une partie qui survit. Nous, on se fonde préférentiellement sur la reproduction dite sexuée. C'est-à-dire qu'au lieu de prélever des morceaux de coraux et de les recoller, on essaie de capter les larves coralliennes et de favoriser leur croissance et leur développement. Ainsi, on restitue normalement toute la diversité du récif corallien et on ne se focalise pas sur quelques espèces.
Très bien. Alors, vous avez aussi mené des choses qui sont bien moins compliquées, bien moins complexes et qui sont tout à fait utiles, notamment par exemple les lestes pour le tourisme, pour les bateaux de plaisance. Alors, on sait que notre côte est très, très soumise à la dégradation à cause des bateaux de plaisance.
Oui, mais à partir du moment où on a un bateau, il faut l'ancrer, parce qu'on passe pas 24 heures sur 24 éveillé. Et cet ancrage, il peut occasionner des dommages sur les écosystèmes qui sont au fond. Et en Méditerranée, on pense particulièrement aux herbiers de Posidonie. la logique...
Alors, c'est-à-dire, comment ça se passe, alors?
Ben, c'est-à-dire que, tout simplement, quand un bateau jette l'ancre, quand il la relève, si l'ancre elle est tombée sur l'herbier, on a un arrachage des herbiers, des feuilles, des rhizomes ou racines. Et ça endommage l'herbier qui est extrêmement lent à grandir. Donc, en fait, un dommage, c'est extrêmement grave. C'est précieux, un herbier de Posidonie. La logique des lestes éco-conçues qu'on développe, c'est de joindre, en fait, de conjuguer le besoin technique d'un ancrage pour une embarcation et un service écologique qui est un habitat, un substrat pour l'ensemble des espèces du milieu.
Alors, bien sûr, on n'aura pas le temps encore de revenir sur tout ce que vous faites, mais je renvoie aussi nos auditeurs au site de Seaboots pour voir un peu tout ce qui se décline. C'est très important parce que on ne parle pas assez aujourd'hui des solutions qui sont mises en place. Or, avant d'atteindre les risques majeurs, enfin, on est déjà dans le risque avec le réchauffement climatique, mais on peut encore faire des choses, et donc je renvoie beaucoup d'auditeurs à ce que vous faites sur Seaboots. Vous travaillez à travers le monde maintenant, vous ne travaillez plus seulement sur cette côte Languedoc sur laquelle vous êtes né. Alors, qu'est-ce que vous faites à travers le monde? Parce que vous n'avez pas forcément la connaissance.
Alors, on travaille effectivement, on a des projets aux Philippines, au Cameroun, au Moyen-Orient, au Royaume-Uni. Donc, on commence à sortir, entre guillemets, de France avec des projets qui sont variés. Je ne vais pas vous répondre dans le détail. Je vais juste ajouter deux choses. La première, c'est que quand on est amené à travailler à l'étranger, on s'entoure effectivement de scientifiques et d'experts locaux. Parce que nous, on n'a pas la science infuse sur tous ces écosystèmes-là. Donc, on s'appuie en fait sur ces connaissances, sur les communautés locales pour progresser et comprendre la problématique et les solutions qu'ils ont déjà tenté de mettre en œuvre. Et la deuxième, c'est que contrairement à la France et à d'autres endroits où on fait du clé en main, c'est-à-dire on vient et on fait tout le projet, entre guillemets, aujourd'hui, on arrive dans des territoires où il y a une forte attente d'implication des communautés locales qui souhaitent être acteurs de la restauration écologique. Et du coup, on est en train de développer et de mettre en place des approches qui permettent de les solliciter, de les impliquer dans la production, dans le déploiement, dans les méthodes de mise en place de ces processus, et de leur transférer en fait notre compétence et notre savoir-faire pour qu'ils gagnent en autonomie et qu'ils soient capables de répandre ce type d'approche.
Alors, juste une minute avant de conclure, donnez-nous un exemple dans un pays particulier.
Par exemple, au Cameroun, on lance un projet de restauration des mangroves. Ce projet repose sur un récif qui a été designé dans ce but, afin de contrôler l'hydrodynamisme local.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, l'hydrodynamisme local?
Ça veut dire réduire la houle, favoriser la sédimentation pour créer un endroit qui est propice à l'installation de la mangrove. Et ces activités de production et d'installation, on est en train d'accompagner les acteurs locaux, enfin on va accompagner les acteurs locaux à ce qu'ils puissent les mettre en œuvre de manière autonome.
Et donc là, ça pourrait être une réponse à une adaptation sur la montée des eaux?
Ça peut être une réponse et une adaptation à la montée des eaux. C'est une réponse et une adaptation à un contexte socio-économique aussi, puisqu'on leur donne la capacité à agir avec quelque chose qui est fait localement, avec les compétences dont ils disposent.
Donc socio-économique, c'est-à-dire c'est eux qui vont gérer le projet?
Oui, on va les accompagner, mais derrière, c'est eux qui le passeront à l'échelle.
Et en bénéfice, qu'est-ce qu'ils vont, indépendamment du fait d'avoir créé ces emplois?
Ils vont avoir déjà un certain nombre d'activités, ils vont avoir une protection littorale et ils vont avoir tous les services écosystémiques que propose la mangrove, depuis de la pêche, du tourisme, du tourisme de bouche, de la résilience climatique et de la capture carbone si la zone est suffisamment grande.
Alors, Julien Dalle, vous êtes heureux aujourd'hui de Seaboots?
Alors, moi, je suis très heureux de l'aventure qu'on a, effectivement. On a au-delà de la vocation et du sens de l'entreprise, il y a une équipe qui est formidable derrière, donc ça nous porte. Et après, je suis toujours désireux d'aller un cran plus loin, parce qu'on voit que notre action elle a du sens et qu'on a envie de la poursuivre autant que possible, et tant qu'on nous donne la possibilité de faire, nous faisons.
Eh bien, donc, je vous renvoie tous à seaboots.fr sur Internet. Hein, et vous verrez, d'ailleurs, il y a une plaquette qui a été faite par la société qui est remarquablement illustrée et que j'ai trouvée très belle et qui explique vraiment très bien, même à quelqu'un qui est un peu... qui n'est pas très, très au courant des choses, ce que vous faites. Merci à tous et à bientôt.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.